Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Non, tout ne va pas si mal sous la mer silencieuse. La nature continue son œuvre constructrice. Songez qu'un récif corallien de 1,5 km de large et 550 mètres de haut a été découvert en octobre dernier au cœur de la grande barrière de corail au large de l'Australie. Précisément cette grande barrière dont on ne nous parle presque toujours que pour nous dire qu'elle fond comme neige au soleil. Stephen Simpson est professeur de biologie marine à l'université d'Exeter en Grande-Bretagne et il s'intéresse depuis longtemps aux sons sous la mer. Pour tenter de restaurer de la vie sur un récif corallien déserté, il a eu l'idée surprenante d'y diffuser des sons captés sur un autre récif qui est lui plus fréquenté que la place Grenette le samedi à 16h. Résultat, plus de 50% d'habitants sur le corail après 40 jours de diffusion de cette musique marine. Bienvenue sur RKS, l'esprit grenoblois. À 11h, le retour des infos et la cuisine de Francis et tout de suite, le miroir des sciences. Vous avez le droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits. Parole de Paul Romer, prix Nobel d'économie 2018. Voici le Miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. Le festival Street Art Fest a lieu dans l'agglomération grenobloise depuis 2015 et durant la période du festival, des artistes venus du monde entier s'expriment sur des supports urbains, souvent des façades d'immeubles, mais aussi parfois des supports plus mobiles comme le tramway. Et pour en parler, nous sommes en studio avec le créateur du festival, Jérôme Katz. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce samedi matin sur RKS.
Merci de nous inviter.
Qu'est-ce que vous faites le samedi matin habituellement ?
J'emmène mes enfants faire du skateboard ou du basket.
Ah oui, oui, ça colle tout à fait avec votre personnalité, je crois qu'on va découvrir tout au cours de l'émission. Et puis, avec nous également, on a la chance de l'avoir aussi en studio et on arrive quand même dans ce studio à respecter les distances nécessaires à notre propre sécurité sanitaire. C'est Raphaël Varela. Bonjour Raphaël.
Bonjour François.
Vous parlez de quoi aujourd'hui alors ?
Oui, aujourd'hui, je parle d'elle, cette technologie qui est tous les jours dans les infos et tous les jours, on l'entend aussi bien que du mal, c'est l'intelligence artificielle.
D'accord, ben on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission pour parler donc d'intelligence artificielle. Signalez-nous toute folie qui vous semblerait avoir été abandonnée. C'est cette devise qui figure sur un mur mort du centre social Georges Sand à Fontaine. Et c'est l'une des fresques géantes réalisées en 2020 dans le cadre du festival Street Art Fest. C'est ça, Jérôme ?
C'est ça, c'est une œuvre de l'artiste Petite Poissonne, une artiste grenobloise qui fait des, moi ce que j'aime bien appeler, des aphorismes urbains.
Alors, être créatif en 2020, en 2021, c'est encore possible selon vous ?
Ah ben oui, les périodes de tension sont d'ailleurs plus que propices à ce type de à la créativité. Généralement, elles sollicitent, elles titillent, elles impriment les artistes et généralement, ils sont les premiers à réussir à s'exprimer autour dans des moments difficiles. On dit que les artistes créent de manière très forte et très profonde quand ils sont dans des périodes
quand ils sont sous pression,
ouais, ou quand ils sont un peu down ou tristes ou qui vivent des émotions personnelles intense.
Alors on y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais quand même, il y aura. Vous avez bien l'intention de faire une édition 2021 du festival. Vous avez peut-être déjà des projets qui arrivent.
Oui.
Et justement, quelle est leur teneur ? Est-ce qu'ils sont plus revendicatifs qu'auparavant à cause du contexte ?
Alors aujourd'hui, le festival, depuis toujours, de toute façon, il n'y a pas de fil directeur, il n'y a pas de thème qui soit imposé aux artistes. L'idée étant de leur proposer la plus grande liberté de création. C'est-à-dire que quand on invite un artiste, on l'invite pour ce qu'il aime faire, pour ce qu'il fait spontanément. Et plus on va lui mettre des contraintes, ben, plus on va le brider. Et l'idée d'un festival d'art, c'est au contraire de débrider les artistes, donc de leur offrir la plus grande liberté possible. Donc il n'y a pas de fil directeur, il n'y a pas de fil conducteur à chaque édition. Et on invite des artistes pour...
Il y avait quand même une thématique l'année dernière.
Non, on a nommé, l'année dernière, on a nommé l'édition 2020 Résilience. Et on l'a nommé puisque le Covid nous est tombé dessus début mars et que nous, fin février, tout est ficelé, tout est prêt. Et donc, Résilience, c'est le nom qu'on a donné à cette édition, plus en hommage au travail qu'a fourni l'équipe.
Ah, c'était rétrospectif, en fait.
Non, dès le départ, on a décidé déjà, il y a eu un gros questionnement, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas ? Donc, comme on avait ce choix-là, et on a décidé collectivement de continuer, d'assumer cette chance qu'on avait, puisque quand vous mettez deux personnes sur une nacelle pour peindre sur un mur, bon ben, vous êtes Covid-proof. Il n'y a pas de... On ne crée pas un rassemblement. On a la chance de ne pas être logé à la même enseigne que les arts vivants. On ne réunit pas 1000 personnes dans une salle pour qu'ils sautent dessus en écoutant de la musique et se transpirent dessus. Donc, on pouvait faire. Mm-hmm. Et ça, déjà, ça nous a conféré quelque part une sorte de responsabilité. On avait la capacité, on l'a vu très vite, de faire culture à un moment où tout s'était arrêté.
Oui.
Donc on s'est retroussé les
manches.
Oui, c'est
vrai,
on y va.
C'est formidable parce que du coup ces œuvres, c'est le seul musée entre guillemets à ciel ouvert géant qui soit encore disponible par les temps qui courent.
Oui, ça c'est propre au street art.
Au street art,
c'est-à-dire qu'effectivement, édition après édition, on enrichit un patrimoine qui se constitue année après année, et les œuvres restent. Ça, c'est la beauté des arts plastiques par rapport aux arts vivants. Donc là, il y a ça, mais surtout, cette édition Résilience, c'était le nom qu'on a donné à cette édition, qui, au lieu de faire festival sur un mois et demi, là, on a fait festival, mais qui n'en était plus un, quelque part, sur 5 mois. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, de compliqué pour les équipes. On a dû défaire, on a dû refaire plusieurs fois. Donc le mot résilience, je peux vous garantir que, en tout cas en interne, il est tout à fait compris et il a beaucoup de sens.
Alors qu'est-ce qu'ils vous proposent les artistes quand ils viennent à vous en disant « tiens, j'aimerais participer l'année prochaine » ou quand vous les sollicitez en disant « tiens, j'aimerais bien que tu sois avec nous l'année prochaine ». Est-ce que ce sont des gens qui se promènent, je dirais, le nez au vent dans la ville et qui disent « moi, je voudrais intervenir sur tel ou tel lieu et puis deuxièmement, je voudrais dire ça ou faire ça, etc. » Comment ça se passe ?
Alors, il y a deux choses. Il y a les artistes qui veulent participer au festival. On reçoit entre une à deux propositions par jour sur toute l'année d'artistes du monde entier qui soumettent leur candidature pour participer au festival. Et puis, il y a les artistes que moi, j'ai envie d'inviter, des gens qui me paraissent importants, qui vont venir enrichir d'une manière cohérente l'existant. Et parce qu'il y a un projet, en fait, ce n'est pas un développement anarchique. Hein, il y a toute une stratégie de constitution d'un patrimoine qui fasse sens et que les œuvres se répondent. Grosso modo, le projet artistique du festival, c'est de constituer... un peu la même chose que quand vous rentrez dans un musée et que vous avez accès aux collections permanentes. Vous arrivez et vous avez, sur toutes les époques, les maîtres de chaque style, de chaque période, de chaque école. Et là, l'idée, dans le cadre du Street Art Fest, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire de faire venir des gens qui, même s'ils ne sont pas très connus du grand public, vont être des gens qui vont être très reconnus à l'intérieur du milieu et qui vont amener un niveau d'excellence le plus haut possible pour venir enrichir ce patrimoine qui fait notre territoire.
Vous écoutez le Miroir des Sciences sur RKS. Nous sommes avec Jérôme Katz, le fondateur du festival Street Art Fest. On revient dans un instant.
Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie, j'ai raté mon évolution spirituelle, je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique.
s'est présenté à moi avec sa Mercedes rose bonbon et sa poitrine nue et dorée. Je l'ai laissé sur le bord de la route et je suis monté dans une dèche fourvoyée où il y avait un chien qui puait.
Elle ne sait pas passer l'aspirateur. Brigitte Fontaine, je suis conne. J'ai choisi ce disque pour évoquer un peu la possibilité pour des artistes, la tentation souvent d'être provocante, voire subversifs. Alors, est-ce que vous diriez que les artistes que vous invitez dans le festival Jérôme Katz, dans ce festival Street Art Fest à Grenoble chaque année depuis 2015, est-ce qu'ils sont subversifs?
Ouais, le street art est subversif par essence. Tous les artistes qui s'expriment de cette manière-là ont fait le choix de. Ils ont commencé tous de manière illégale dans la rue. Donc, ils ont une activité subversive par essence. Et moi, dans le cadre des artistes que j'invite, j'aime bien que, en plus de la qualité artistique de l'artiste, il y ait un message qui soit associé à l'œuvre. C'est-à-dire qu'une œuvre belle, si en plus elle peut faire réfléchir, c'est vraiment quelque chose dont je ne vais pas me priver.
C'est tout gagné. Alors, il y a une dimension, vous disiez tout à l'heure que donc, le festival de l'année dernière avait pris une tournure évidemment différente à cause du contexte. Et puis, il y a le contexte de l'évolution de la société qui vous a amené aussi, dès 2019, à développer une dimension numérique au festival. Ça s'appelle le Digital Street Art Fest, c'est ça ?
Exactement.
Alors, il y a un collègue à vous, un ami à vous, un collaborateur qui est là avec nous au téléphone. Bonjour Mathieu Poissard.
Bonjour.
Alors, votre société s'appelle Néovision. C'est une jeune entreprise qui est basée près de la gare SNCF à Grenoble. Détail intéressant, hein, on travaille sur le local quand même. Alors, que viennent faire des spécialistes de l'intelligence artificielle dans un festival de street art ?
Néovision, donc on est bien une société située près de la gare SNCF. Donc, on est une société de conseil d'ingénierie en intelligence artificielle, mais on est des spécialistes de l'IA, on a des passions aussi, on a des choses qui nous intéressent.
Ah, ça, c'est sûr qu'on vous voit tout de suite très passionné. Dès qu'on va sur votre site web, on sent qu'il y a de la passion, hein. C'est pas que du business, cette boîte. Hein.
C'est ça, on aime l'IA, mais on aime aussi d'autres choses, et on aime particulièrement le street art. Donc moi, je suis un petit peu artiste à mes heures perdues, et notre responsable R&D également est assez penché sur la question artistique. Et donc, lors d'une discussion, on s'est dit, pourquoi on ne contacterait pas le Street Art Fest pour mettre un petit peu d'IA dans cette dimension digitale, notamment.
Ah, c'est vous qui avez pris l'initiative?
Ouais, et très rapidement, en fait, ça a collé avec toute l'équipe organisatrice, et Jérôme notamment, et on s'est lancé sur le projet très peu de temps après les premiers contacts.
Comment ça fonctionne, cette application?
Donc, c'est une application qu'on a voulu... En fait, on a voulu la laisser simple d'utilisation. Donc, ça permet de voir une géolocalisation de toutes les œuvres sur le territoire grenoblois. On peut aussi donc cibler sa découverte en choisissant différents parcours qui peuvent être thématiques ou localisés aussi selon le quartier où on est. Et on a intégré, donc la dimension vraiment intelligence artificielle, une technologie de recherche visuelle, donc une reconnaissance d'image. En prenant une photo d'une œuvre, on va réussir à la reconnaître et à l'identifier très rapidement.
Alors j'imagine que effectivement l'enjeu sur la reconnaissance d'image, il est un peu plus complexe que quand vous photographiez ces, comment on appelle ça, ces espèces de codes en carré là avec les flash codes.
C'est pas un QR code.
Des QR codes, voilà. Oui, parce que on prend l'œuvre en photo selon qu'il y a du soleil, qu'il fait sombre, etc. Ça peut jouer, non?
Ouais, l'angle. Alors, ça peut jouer, mais on a une technologie qui est robuste.
Et ça, je n'en doute pas. Vous n'allez pas dire le contraire.
On a fait des tests et jusqu'à maintenant, on a un très très bon taux de reconnaissance avec quasiment aucune erreur sur les reconnaissances effectuées.
Ouais, super. Alors, vous dites que les œuvres ne sont plus seulement esthétiques et qu'elles peuvent transmettre leurs messages et leurs secrets.
Oui, exactement. Du coup, c'est ce dont vous parliez juste avant. Donc, une œuvre, outre le fait qu'elle soit esthétique, des fois, il y a un message qui est caché, qu'elle veut, c'est un lecteur de message. Et le problème, c'est que quand on se balade dans la rue et qu'on tombe sur une œuvre, des fois, le message n'est pas explicite. Aujourd'hui, quand on prend en photo l'œuvre, on va réussir à la nommer et à obtenir toutes les informations relative à cette œuvre-là. Donc, quel est l'artiste, quel est son titre, et qu'est-ce qu'il a voulu dire en la créant. On a aussi des images du making-of, par exemple des timelapses aussi, on a des vidéos, on a beaucoup d'informations sur chaque œuvre.
Mais là, je me tourne vers Jérôme Katz. On peut peut-être parler tous les trois, ou tous les quatre, même si ici Raphaël a quelques réflexions ou des questions aussi, il est le bienvenu. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à la démarche générale qu'on veut que les participants au festival adoptent? Parce qu'on désacralise un peu, on rapporte de l'information, de l'explication.
Mais alors, je vais prendre la parole parce que l'application du festival, c'est vraiment quelque chose qui est... Quand Mathieu est venu nous voir avec sa techno et sa proposition, c'était génial et on travaillait sur la question depuis un bout de temps déjà. Donc la volonté de partager, de mettre à disposition la totalité des informations qu'on collecte lorsqu'on fait une fresque, quand on fait venir un artiste par exemple. Effectivement, on peut le mettre sur une nacelle, lui faire faire son œuvre, lui donner son cachet, lui dire merci, au revoir et partir. On laissait partir, il est très content avec ce qu'on a. Mais nous, l'intérêt du festival, et c'est aujourd'hui quelque chose d'assez évident dans la société, la valeur, en fait, c'est la production de contenu. C'est-à-dire que des médias, aujourd'hui, il en existe des tonnes. Des gens qui produisent du contenu, il y en a très peu. Et un contenu original digne de ce nom-là, c'est encore plus difficile. Nous, quand on fait venir un artiste, on a... l'artiste qui vient, mais effectivement, comme le disait Mathieu, on a des photos du making-of, on a un time-lapse, donc vous voyez l'œuvre qui a mis une semaine à être réalisée, se constituer sous vos yeux en une vingtaine, trentaine, cinquantaine de secondes. Donc il y a un effet waouh qui est disponible, qui permet de comprendre la manière dont fonctionne l'artiste. On a une interview de l'artiste, on a effectivement toute la partie texte qu'on est les premiers et les seuls à pouvoir capter dignement, puisque c'est nous qui invitons les artistes, on a les œuvres en préparatoire, on sait exactement ce que veut dire l'artiste. Donc tout le contenu...
C'est-à-dire que la partie texte, c'est quoi? C'est des interviews,
des interviews,
un des texte textes de présentation des œuvres ou du projet?
Exactement, ça peut être des clés de lecture de l'œuvre. Je vais prendre une œuvre au hasard, pas au hasard, mais justement, il y a une œuvre en 3D avec un effet de trompe-l'œil, on a l'impression qu'il y a un trou dans un mur, qui est rue Nicolas Chaurier. Si vous voyez l'œuvre, vous dites, ah bah tiens, il y a un effet de trompe-l'œil assez intéressant, on a l'impression qu'il y a un trou dans un mur. Bon, si vous n'avez pas l'information qui va bien, vous allez passer à côté d'une chose très importante, qui est de dire que chaque fois que l'artiste fait ce genre d'œuvre, par exemple, quand ce n'est pas des œuvres géométriques, quand c'est des formes on ne comprend pas bien d'où vient la forme, qu'est-ce qui fait que c'est cette forme-là qui apparaît sur le mur, en fait, il s'agit de pays, c'est des cartes de pays, et c'est des cartes de paradis fiscaux. Donc le trou noir dans le mur, il change complètement de signification, vous voyez. Et là, d'un seul coup, vous
avez... Oui, mais alors ça veut dire que l'œuvre ne se suffit pas elle-même, il faut une explication.
Et comme dans tout, si jamais il y a des œuvres qui sont... assez accessible de prime abord. Quand vous voyez une œuvre, vous comprenez tout de suite qu'il s'agit d'un beau paysage et que ce paysage ne dit a priori rien d'autre. Et peut-être que, si jamais vous avez la clé de lecture, vous avez l'interview de l'artiste, eh ben, c'est le paysage qui était là avant que l'usine soit construite, par exemple. Et donc, d'un seul coup, cette œuvre d'art que vous avez devant vous,
Elle prend une autre dimension, elle a un
message supplémentaire.
Mathieu Poissard, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, toujours là.
Alors, est-ce que vous préparez quelque chose pour 2021 ?
Il faut voir comment on va pouvoir faire évoluer cette application.
J'anticipe peut-être sur vos discussions business qui n'ont pas commencé.
Non, il y a pas. On surfe encore sur ce projet-là. On essaie de le mener bien à terme et on va voir comment on arrive à le faire évoluer. Mais en tout cas, on a envie de continuer à travailler avec l'équipe organisatrice. C'est super bien passé. On est ravis de ce partenariat. Et on voudrait aussi faire encore plus le rire.
Bon, Mathieu Poissard, donc de la société Neovision, qui a développé cette application numérique qui prolonge l'expérience des visiteurs et des participants du festival Street Art Fest. On retrouve Jérôme Katz dans quelques instants. Merci Mathieu. À bientôt.
Merci à vous.
Salut Mathieu.
Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets. Mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels le psychopathe trouvait le recours ultime. Masochiste à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ dans le but qu'elle était une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière, scène de l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi, font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ. Quand lui pique, elle est fait une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion, à la logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tactique attaque, tout éthique avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce punk beat. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Son nom de code. Jimmy J. Hey Jimmy, tu connais l'histoire. Yes.
Le miroir des sciences sur RKS ce matin est consacré au festival Street Art Fest et nous sommes avec son fondateur Jérôme Katz, qu'on remercie encore de passer cette heure avec nous. Alors oui, j'avais choisi MC Solar Victime de la mode parce que j'avais envie qu'on évoque un peu votre parcours, ce qui vous a amené à monter ce festival et puis à monter aussi un... Comment vous dites, vous m'avez repris, je vous ai dit une galerie. Non, surtout pas.
C'est un centre d'art.
Un centre d'art qui s'appelle Space Junk. Donc, c'est le résultat de tout un parcours. Vous avez été un garçon à la mode.
Ouais, à une époque, dans une autre vie, effectivement. Comme tout bon grenoblois, j'ai été mis sur des skis assez tôt. J'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ça veut dire que quand le snowboard a explosé, on faisait partie des athlètes qui maîtrisaient pas trop mal la discipline. Et moi, j'avais une folle envie de voyage, de découverte du monde. Et ça tombait très bien, puisqu'on était au moment où il était possible de faire carrière assez facilement. Il y avait pas mal d'argent dans le milieu. Et,
vous faisiez des compétitions ?
Non, justement, on a été la chance, avec un collègue, Axel Poporté, à faire partie vraiment des premiers Européens à être payés pour apporter des images, pour apporter des voyages, pour apporter des rencontres avec des pays improbables. Donc, plutôt que d'aller faire une compétition dont la date a été décidée l'année précédente et vous ne savez pas si vous allez avoir de la bonne neige, de la mauvaise neige, vous dépensez de l'argent pour aller à un endroit où vous n'avez pas forcément envie d'aller. Là, on partait entre copains avec un photographe. On décidait de la destination où on allait. Ça veut dire qu'on attendait, on avait des sous sur notre compte. Et puis, ben, si jamais il neigeait beaucoup en Alaska ou au Kamchatka ou en Ouzbékistan ou au Liban, eh ben, ça décidait l'endroit où on allait. On était sûr
Génial.
D'avoir de la neige absolument formidable. Et on allait défricher des endroits en fait, où peu de gens allaient. En fait. Donc, on a été payé. Moi, je dis toujours que pendant 10 ans, j'étais payé pour avoir un très mauvais bilan carbone. Alors, à l'époque, ça ne se faisait pas. On n'avait pas bien conscience de tout ça. Mais bon, voilà, on a fait des tours du monde à répétition pour aller
Vous chercher. Avez participé à votre manière à la mondialisation ?
Complètement, oui. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai un regard complètement bien différent par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai eu une chance incroyable de pouvoir vivre ça sans aucun remords. Aujourd'hui, les athlètes qui font ce que nous, on faisait à l'époque, au lieu de prendre l'hélico, ils montent à pied. Alors, ils sont vachement plus musclés que nous. ils font beaucoup moins de descentes aussi. Mais voilà, ils font vachement attention à leur empreinte carbone. Nous, à l'époque, ça n'existait même pas. C'était même pas dans les consciences, quoi.
Alors, vous avez glissé, mais vous avez aussi rencontré des gens dans toutes ces destinations. Ça a peut-être contribué à forger votre culture mondiale.
Oui, plus qu'une culture mondiale. C'est vrai que j'ai eu la chance de vivre, d'aller dans beaucoup, beaucoup de pays. La chose incroyable, c'est plutôt d'être né en 69, d'avoir eu 12-13 ans quand le hip-hop, le rap, le street art est arrivé, a débarqué en fait, et d'avoir été à cette période-là. En fait, on a vécu un moment de... Nos parents ont vécu des moments de libération incroyables. Nous, on a vécu l'arrivée de ces cultures, ces contre-cultures, ces cultures émergentes qui, aujourd'hui, m'ont construit... graphiquement parlant, j'ai envie de dire, avoir mes premiers chocs esthétiques. Et c'est grâce à ça qu'après ma carrière de sportif, qui a duré une dizaine d'années, où j'ai été vraiment payé pour faire ça, je suis passé au monde de l'art. Et donc en 2003, quand ma carrière s'arrête, je décide d'ouvrir
un centre. Pourquoi elle s'arrête ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut rester jeune.
Voilà, non, mais c'est sportif professionnel. C'est, vous savez, quand vous commencez, quand vous signez votre contrat, votre premier contrat, vous savez que ça ne va pas durer des années.
Ouais.
C'est vraiment des métiers qui s'arrêtent avec l'âge. Tout le monde le sait. Donc après, on en a plus ou moins conscience. Certains font la politique de l'autruche ou pas, mais on sait que c'est le genre de truc qui s'arrête, et généralement assez brutalement, parce que ça peut être soit à cause d'un accident, soit parce que, effectivement, vous passez de mode. Et là, il faut savoir rebondir. Alors, généralement, la plupart des gens qui continuent à bosser dans l'industrie, parce que qui va être représentant ou moniteur de ski, par exemple, pour les anciens sportifs, c'est souvent comme ça que ça se finit. Bon, moi, j'ai toujours été grenoblois avant tout, extrêmement urbain. Je ne me suis jamais associé à une station en particulier. Je voulais rester à Grenoble. Je voulais rester en contact avec la pluralité, la richesse de cette grande ville. Hein. On n'est pas par opposition à une petite station ou même à une grande station. Les échanges sont complètement différents. L'ouverture d'esprit que procure une cité est bien différente de ce que vous pouvez trouver en station. Et ça m'allait. J'avais besoin de ça pour mon équilibre. Et j'ai pu passer de l'un à l'autre assez facilement. Et j'ai décidé d'offrir des murs blancs à ces artistes du milieu de la board culture. Donc le lien était quand même là. Les gens, tous les artistes dont le travail avait été utilisé pour faire les décorations des planches de skate, des planches de snowboard, par exemple, c'est ça que j'avais envie de montrer et de faire le lien entre le public estudiantin de Grenoble et les artistes dont le travail était utilisé sur ces supports-là.
Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en plus, vous vous êtes trouvé dans une situation financière qui vous permet de le faire, qui vous permettait de le faire sans avoir un business model très très serré. Donc vous avez pu aussi faire appel à des artistes qui n'étaient pas forcément super bankable au départ.
Ah oui, mais alors c'était le parti pris, et c'est pour ça que c'est un centre d'art et non pas une galerie, c'est que c'est vraiment un endroit de rencontre et pas un endroit de vente. Quand vous faites découvrir des artistes dont le travail a été utilisé sur les planches de skate, vous ne vous adressez pas à la ménagère de 60 ans friquée grenobloise qui va vouloir des aquarelles de montagne. Vous vous adressez à des étudiants qui n'ont pas un rond. Donc, dès le départ, le modèle économique de se dire on va vendre des œuvres d'art et ça va nous permettre de financer l'activité, il a été évacué dès le départ. Ce qui m'a permis d'avoir une liberté de sélection des artistes et de ce que je montrais qui était complètement totale. Il n'y avait aucune obligation de vente. Et donc, du coup, j'ai pu faire découvrir des choses incroyables. Et c'est ce qui fait que Space Junk, aujourd'hui, c'est plus un centre d'art, mais c'en est trois.
Donc, c'est Bayonne, Lyon.
Bayonne, Lyon et Grenoble.
Et Grenoble.
Le premier en étant créé à Lyon. À Grenoble. Et le dernier en date.
Ah oui, vous êtes dans l'esprit grenoblois.
Ah oui, je suis vraiment grenoblois, pure souche.
Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Jérôme Katz, fondateur du festival Street Art Fest, est avec nous ce matin sur RKS. Jérôme, devant vous, vous avez donc la collection des miroirs de l'émission et vous en avez choisi un. On demande toujours à nos invités d'en choisir un ou deux à leur gré et de le décrire, bien sûr, puisqu'on est à la radio et que nos auditeurs n'ont pas l'image. Donc à vous, avec les mots, de projeter des images dans le micro. Et puis après, vous nous dites ce que vous inspire ce miroir.
Alors, déjà, je ne connaissais pas du tout cette coutume, donc je la découvre comme ça, spontanément. Alors j'ai ouvert ce sac avec, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine de 8 miroirs différents, avec des formes toutes plus traditionnelles ou bizarroïdes. Et puis il y en a un qui m'a un peu sauté aux yeux. On sortait de MC Solar, on m'avait dit que j'étais à la mode et que c'était pour ça qu'on mettait ce morceau pour parler de ma vie précédente dans le snowboard. Et il y a ce miroir rectangulaire qui fait 4-5 cm de haut par une vingtaine de centimètres de long. Et je me suis dit, je vais choisir ce miroir-là. Et puis je l'ai posé devant moi, dans le sens pas de la hauteur, mais de la largeur. Donc ça fait comme une sorte de bande devant moi qui va de gauche à droite, ou de droite à gauche.
Et donc
ça a beaucoup fait
Raphaël,
qui a tout de suite compris ce à quoi je faisais référence. Dans le monde du snowboard, la cocaïne ne vous est sûrement pas... les drogues font partie de cet univers, en fait, de toutes ces contre-cultures. C'est-à-dire qu'avec les années 80, alors autant des années de nos parents, c'était le LSD. Dans les années 80, c'était le hashish, etc. Et aujourd'hui, la cocaïne fait partie du monde du showbiz. Alors moi, en tant que sportif, c'est vraiment un truc qui m'est complètement étranger. Par contre, c'est complètement dans l'air du temps. Là, c'est vous qui m'invitez à la radio, donc c'est plutôt votre domaine. Hein, parce que le showbiz, c'est vous, c'est pas moi. Et donc, je comprends pourquoi est-ce que parmi vos miroirs, vous avez celui-ci.
Voilà, vous y avez vu un accessoire. Je comprends. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans un instant sur RKS. We'll be right back. RKS, le miroir des sciences, et à l'instant Guns and Roses. C'est pas un choix par hasard, Jérôme Katz. D'ailleurs, vous appréciez?
Ah, énormément. Surtout que ça a été un de mes premiers chocs esthétiques, l'affiche en fait de cet album. Quand elle est sortie, c'était la couverture de l'album a été censurée aux États-Unis, mais la première image, qui s'appelle Appetite for Destruction, c'est une image d'un artiste incroyable qui s'appelle Robert Williams. Et je me souviens avoir passé des heures sur cette image dans les années 80, à essayer de comprendre comment est-ce que c'était possible de faire ça. C'est fait avec la peinture au plomb, il y a des reflets dans des dents qui sont faits avec des couteaux, c'est une sorte de monstre, enfin je veux pas, c'est difficile à décrire, mais la qualité du travail, c'est à l'époque où Photoshop n'existe pas, quoi. Et il y a c'était un vrai bouleversement esthétique, cette couverture d'album.
Donc le début d'une émotion qui vous oriente.
Complètement, j'ai eu la chance de pouvoir faire venir et rencontrer Robert Williams lors d'une grosse exposition que j'avais montée pour la région Rhône-Alpes, qui s'appelait Les Enfants Terribles. Et oui, c'est quelqu'un ça fait partie des monstres sacrés de cette contre-culture que je défends depuis 2003.
Alors, on parlait intelligence artificielle avec Neovision tout à l'heure, qui est cette société, Mathieu Poissard est venu nous en parler, qui a monté une application dédiée pour le festival Street Art Fest. On prolonge la réflexion, l'éducation sur l'intelligence artificielle, l'information, je vais dire, puisque Raphaël Varela, fort inspiré par le sujet, a écrit sa chronique sur le thème. Raphaël, quand l'intelligence artificielle produit de l'art.
Oui, exact. Bon, les nombres des choses que les machines peuvent faire plus rapidement et mieux que nous, humains, augmentent chaque jour qui passe. Ce phénomène est beaucoup plus souvent décrit sur ses aspects négatifs. Qui n'a jamais entendu dire que l'intelligence artificielle, elle est vilaine, responsable pour la suppression de l'emploi, pour les marketing de masse? Beaucoup craignent que l'IA dépasse et remplace l'humain. Mais l'intelligence artificielle est aussi l'héros qui permet l'amélioration des diagnostics médicaux, la réduction d'accidents. On a vu l'exemple de l'appli fait avec Street Art qui permet de démocratiser ou d'apporter plus d'informations sur les œuvres d'art. Et croyez-les ou non, les chercheurs et scientifiques sont convaincus, l'IA fait beaucoup plus de bien que de mal. L'apprentissage automatique commence d'ailleurs à envahir des secteurs auparavant exclusifs aux humains, ceux qui impliquent la créativité et les jugements artistiques.
Intelligence artificielle en un paragraphe, Raphaël, c'est quoi?
C'est en effet un terme générique et qui englobe beaucoup de concepts différents. Pour faire simple, on peut dire qu'un programme d'intelligence artificielle est une suite d'algorithmes mathématiques de classification, alors qu'un programme normal, il prend des entrées, il utilise une logique pour produire une sortie. Un algorithme d'intelligence artificielle utilise une combinaison des entrées et des sorties simultanément afin d'apprendre.
Bref, c'est un vaste foutoir dont il sort quelque chose d'intéressant.
Exact. Par exemple, si on lui donne une photo d'un chien, il faut lui dire que c'est un chien. Et les résultats des opérations mathématiques correspondant à cette entrée génèrent une empreinte.
C'est triché. Vous lui montrez une photo d'un chien, vous lui dites, est-ce que tu reconnais que c'est un chien? Je te dis que c'est un chien. Ah, c'est un chien.
Mais c'est comme un enfant. On dit le nom et on dit qu'est-ce que c'est. Et après, il est capable de reconnaître.
Parce qu'il y a une phase d'apprentissage, puis après une phase dite d'inférence ou de restitution. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, le système est quand même capable d'être un peu autonome. Oui. Sinon, je ne vois pas à quoi ça sert.
Exactement. Il y a, ces algorithmes sont bidirectionnels. C'est-à-dire que si à un moment donné, je dis à l'ordinateur, je demande qu'il me montre un chien, il va être capable de recracher une amalgame des images qui correspondent à cette classification dans sa base de données.
Alors, d'après cette définition, il semble évident qu'une machine ne peut qu'imiter l'art et pas créer.
Bon, cette discussion, les spécialistes en art, c'est vraiment Jérôme. Je vais parler plutôt du point de vue technologique. Cette discussion, elle a vraiment un intérêt philosophique et la discussion peut durer énormément de temps. Mais en effet, on ne peut que simuler en quelque sorte la créativité. ces programmes d'ordinateur ne peuvent s'appuyer que sur ce sur quoi ils ont été entraînés. Donc, par exemple, si j'apprends un algorithme des poèmes, il sera capable de concocter quelques phrases, mais pas toujours avec beaucoup de sens.
Donc, peu de créativité.
Oui, on va dire que ça peut être un mélange de ce qu'il a dans sa base de données.
Donc, ce serait plutôt une reproduction des ordonnées, des données d'entrée. Jérôme Katz, oui.
Oui, ça me fait vraiment penser à quelque chose qu'on a fait dans le cadre du premier Digital Street Art Fest, où Patrick Suchet, qui est un artiste qui a une triple casquette, puisqu'il est à la fois artiste, ingénieur et chercheur, a fait travailler des ordinateurs sur des tableaux. Et donc, il a fait reconnaître plusieurs tableaux. Donc, il y avait le portrait de campagne de Barack Obama, par exemple. Mais il y avait aussi le cri de Munch ou les tournesols de Van Gogh. Et une fois que l'ordinateur avait bien appris le tableau, les gens se faisaient capter par une caméra de reconnaissance. Et ils étaient dessinés à la manière du tableau qu'ils avaient choisi. Donc, qui pouvait être traité comme le cri de Munch par l'ordinateur. C'est vraiment bluffant.
Mais là non plus, il n'y avait pas de création. C'était une réinterprétation à la manière. Un outil.
Exactement.
Mais
c'est bluffant. On lui donne un style. Il est capable de produire quelque chose. Et en effet, en 2018, parce que vous avez parlé de tableaux, il y a un tableau qui a été vendu. Un tableau intitulé « Les portraits d'Edmond Bellamy ». A été vendu aux enchères pour plus de 430 000 dollars. Et ça a surpris les mondes de l'art parce que l'artiste était un algorithme utilisé par un collectif parisien qui s'appelle Obvious. Ils ont introduit, comme vous avez décrit, des milliers d'images dans un ordinateur qui a ensuite utilisé ce qu'il avait appris pour créer une image originale, donc une image qui n'existait pas. Peu de temps après aussi, il y a une galerie d'art contemporain à New York qui s'appelle HG qui a accueilli une exposition présentant des impressions originales produites par un programme d'IA, d'intelligence artificielle, et qui a aussi été très bien reçu du public. Ces œuvres d'art ont ravivé des vieux débats, notamment sur la définition de l'art, et surtout sur l'avenir des artistes humains. Quid de la propriété intellectuelle aussi?
J'aime bien le terme « les artistes humains », donc ce qui suppose qu'il y a des alternatives artistes.
Il existe le terme « artiste IA » déjà.
Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que la réaction des spectateurs montre que ces créations sont au moins bien plaisantes esthétiquement, et on n'arrive pas vraiment à les distinguer objectivement d'une création humaine.
L'intelligence artificielle, c'est donc le début d'une nouvelle révolution artistique, pour résumer?
Je laisserai Jérôme compléter après, mais je dirais que...
Ne prenez pas de risques.
Bien que l'intelligence artificielle puisse produire des œuvres d'art équivalentes, en quelque sorte, à celles d'un artiste humain, les technologies d'intelligence artificielle dans les domaines sont encore dans leur état embryonnaire. Et à vrai dire, elles ne sont pas vraiment nécessaires dans ces domaines. Les contraintes de productivité ou... d'efficacité ne sont pas les mêmes dans le domaine industriel ou administratif, mais nous pouvons utiliser nos machines pour développer notre créativité et repousser les limites de l'art comme une vraie extension de notre esprit. Kasparov, c'est le mythique joueur d'échecs russe, disait, il était convaincu que sa bataille contre l'ordinateur Deep Blue d'IBM avait conduit à des meilleurs joueurs d'échecs humains par la suite. Au lieu de s'inquiéter de la menace que l'IA peut pour la menace de l'intelligence artificielle pour la suprématie de la créativité humaine, il faudrait plutôt se concentrer sur les possibilités qu'elle offre. Les mouvements artistiques sont souvent associés au rejet des normes, et comme ça, il vaut mieux considérer l'intelligence artificielle comme notre prochain partenaire créatif.
Jérôme Katz.
Moi, j'ai un peu de doute. Quant à ça, effectivement, les outils comme Photoshop, etc., toute l'assistance de l'ordinateur, la PAO, la production assistée par ordinateur, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, permet de booster la créativité des artistes. Par contre, jamais la sensibilité, l'émotion, l'empathie n'arrivera, je pense, à être transcrite par l'intelligence artificielle.
In silico.
Ouais. Ouais, donc
ça, donc il nous reste de l'espoir à nous humains.
Il nous reste de l'espoir. Par contre, le jour où l'intelligence artificielle va être capable d'intégrer la totalité des œuvres d'art qui auront été produites sur cette planète, sur toute la durée d'existence de l'être humain, là, elle pourra légitimement dire « je vais produire quelque chose qui n'a encore jamais été produit ». Et là, on va arriver à quelque chose. C'est-à-dire que cette connaissance aujourd'hui, comme la planète est complètement finie, on arrive à un...
Oui, mais là, vous touchez effectivement au point qui est le point clé, qui est la puissance de calcul et la capacité d'accéder à des grandes bases de données, qui a été ça a été les freins du développement de l'intelligence artificielle depuis une vingtaine d'années, en fait. Et donc, maintenant, on y arrive, hein.
C'est ça. Donc, la puissance des calculs et surtout les bases de données qui sont capables de stocker beaucoup de données et les classifier, comme on dit, les mots-clés de cette technologie et vraiment de pouvoir les segmenter et dire à quoi ça correspond. Et donc, si on arrive, j'espère que non, mais si on arrive à stocker vraiment tous les arts, tous les œuvres d'art et tous les styles sur une machine... Je pense qu'on peut créer de nouvelles combinaisons, c'est-à-dire de nouvelles choses, de nouvelles combinaisons de ces choses stockées, mais pas vraiment, c'est pas une création avec intention.
Non, mais on pourra être capable de dire, quelque part, diagnostiquer un sorte de paysage global de ce qui a été fait dans le monde de l'art et d'identifier des endroits où... peu de choses où rien n'a été fait en se disant,
on peut compléter ou aller explorer.
Et ça permettrait éventuellement d'orienter des gens qui ont envie de créer et de créer des choses nouvelles dans certaines directions.
Vous écoutez le Miroir des Sciences, nous sommes avec Jérôme Katz et nous parlons du Street Art Fest ce matin. Encore une petite pause musicale qui va vous rappeler peut-être des souvenirs. Jérôme Katz chante avec les Beach Boys après avoir continué, prolongé la discussion et presque la polémique avec Raphaël sur l'intelligence artificielle. On va vous réinviter sur une thématique intelligence artificielle plus précisément. Allez, pour l'instant, nous, on s'occupe de notre agenda. Ça chauffe dans les Alpes. Relever des défis en équipe pour faire face aux effets du changement climatique dans nos régions de montagne, dans un jeu conçu par le comédien grenoblois Pascal Servet, qu'on pourrait inviter aussi à cette table, pourquoi pas une prochaine fois. Le jeu se déroule en format numérique. 6 personnes pourront jouer simultanément. Il faut s'inscrire. Il y aura 6 sessions, 3 le 25 janvier et 3 le 3 février à 13h30, 15h30 et 17h30. Ça dure environ 1h30. Tout est en 30. Attention, c'est payant, mais il faut bien vivre quand même. Donc, bon courage pour trouver le site d'inscription. Le plus simple, c'est de chercher la phrase « Ça chauffe dans les Alpes » sur le site d'Écosciences Grenoble. On parle beaucoup de la blockchain en ce moment dans les médias. Pourquoi ? Parce que le cours du Bitcoin, cette crypto-monnaie basée sur cette technologie, s'envole, le cours. Mais Christine Henber, du CEA Leti et de NanoElec, nous parlera de la blockchain dans un autre contexte, celui de notre identité numérique. La détention des données personnelles des usagers constitue l'une des bases du modèle économique des géants du numérique. Et dans ce contexte, la blockchain apparaît comme une technologie intéressante pour aider à dissocier l'identification de l'authentification. Pas clair ? Christine vous explique vendredi prochain, le 15 janvier, à 12h30 à Minatech. Et là aussi, c'est sur inscription, c'est en ligne, c'est gratuit. Donc, vous cherchez Midi Minatech sur votre navigateur.
C'est super intéressant. Elle vous parlera sûrement d'Oasis Lab et du token Rose, qui sont des trucs qui sont en train d'arriver. C'est passionnant.
Donc, à suivre le 15 janvier à 12h30. La veille, le jeudi 14, la ville de Grenoble propose Éclat de culture de 16h à 20h pour se mettre au balcon, aux fenêtres, occuper les places de marché, les arrêts de tram et assister à des rendez-vous artistiques gratuits dans toute la ville, près de chez vous. Le programme complet est sur le site de la ville de Grenoble. Est-ce que l'un de ces rendez-vous vous inspire ? Oui, celui de Christine Henber.
À fond.
Ouais. C'est blockchain, voilà un sujet aussi qu'il faut qu'on... Blockchain et Bitcoin,
oui,
il faut qu'on retienne pour un prochain plateau pour le miroir des sciences. La blockchain, ça pourrait être un sujet d'inspiration pour le festival.
Ouais, c'est un peu complexe, mais sur un autre sujet, celui de la protection des données personnelles, effectivement, c'est en train d'arriver. Et Oasis Lab là, est en train de vraiment travailler sur une crypto-monnaie en fait, qui viendrait participer à la protection des données. Et donc, grosso modo, vous diriez, OK, vous voulez m'envoyer de la publicité, vous payez. Grosso modo, vous redevenez maître de vos données. Et la blockchain va pouvoir permettre ça. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas. Mais...
Oui, la blockchain, c'est la technologie qui est derrière les crypto-monnaies, pas que le Bitcoin, il y a plusieurs d'autres. Et on s'est vite aperçu qu'il y a plus d'applications de cette technologie que de crypto-monnaies elles-mêmes, notamment pour vérifier qu'un diplôme est vrai, la particularité de cette technologie, c'est que aucun intermédiaire n'a toute l'information. Donc, du coup, on ne peut pas tout savoir. La seule personne qui sait tout, c'est les destinataires de l'information et la personne qui l'a émise.
Oui, voilà. Donc, un chapitre à ouvrir au miroir des sciences. Allez, dernière petite séquence. Donc, pour 2021, vous avez déjà des pistes pour ce festival Street Art Fest ?
Oui, bien sûr, on a déjà...
Alors, vous avez des dates, déjà ?
Alors, les dates, ça sera... maintenant, on a construit, en fait, le festival d'une autre manière. On sait que le Covid peut être là encore, et donc, du coup, on le conçoit d'une nouvelle façon. On a un plan A et un plan B, et du coup, le plan A, sans Covid, on sera, comme d'habitude, on inaugurera le Digital Street Art Fest vers la mi-mai. Fin mai, on aura le Street Art Movie Fest, 3 jours de projection en plein air au parc du Jardin de Ville à Grenoble. Et les fresques commenceront à se réaliser de début à fin juin, tout le mois de juin. Et si malheureusement le Covid est là, on s'adaptera en fonction des les principaux aléas pour nous. C'est la capacité qu'ont les artistes à voyager. Si les frontières sont fermées, du coup, il faut qu'on s'adapte.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour vous suivre ? Simplement, taper sur le navigateur Street Art Fest Grenoble.
StreetArtFest.org.
Directement sur Space Junk.
Il y a le site du festival, la web app qui est une web app. C'est pas une application qui se télécharge sur les Apple Store ou Android Store. Et donc ça, c'est important d'aller bien la chercher au bon endroit, c'est-à-dire sur le site du festival. Et puis après, vous n'avez plus qu'à la poser sur votre écran d'accueil et vous avez une application qui est complètement respectueuse de toutes vos données puisque c'est une web app. Donc du coup, il n'y a aucune collecte de données. Vous choisissez si vous voulez être géolocalisé ou pas. Et vous avez accès à la totalité de l'information sur plus de 220 œuvres aujourd'hui.
Merci Jérôme Katz d'être venu en studio ce matin. Merci aussi à Mathieu Poissard de la société Néovision. Merci à Raphaël Varela pour sa chronique. C'était le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger, avec donc Raphaël sur la chronique. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt sur RKS.
L'info de proximité et le meilleur des tubes à Grenoble, c'est RKS.